savez, on le répète toujours. Et on va attaquer.
Ouais, on va essayer d'attaquer. Ouais. C'est pas gagné. Hein. Non, on va essayer d'attaquer tout ça pour vous reparler, bah, un peu comme toutes les semaines, parce qu'il le faut et il faut que ce mouvement grandisse encore par rapport à la mobilisation contre la loi travail, qui inclut d'autres mots d'ordre, hein, comme aussi la fin de l'état d'urgence, etc., etc. Donc, pour vous dire que petit résumé d'hier, hier il y avait une mobilisation. Enfin, déjà peut-être du 31, parce qu'on appelait. Au 31, il y a eu beaucoup de monde dans la rue, peut-être pas encore assez par rapport au pourcentage de grévistes, notamment pour les salariés, mais on espère que ça va porter ses fruits et que ce pourcentage-là va augmenter au fur et à mesure des mobilisations. Il y avait une autre donc manifestation hier appelée par les organisations de jeunesse, donc étudiants, étudiantes et lycéennes, lycéens, avec un départ donc à 13h à Place Bellecour, puis la manif s'est allée en direction des Brotteaux pour finir devant le double mixte. Donc il y a eu quelques soucis en départ de manif avec la police qui a mis un petit coup de pression en disant que la manif ne partirait pas à cause de quelques insultes. Les pauvres, pourtant ils sont habitués à en recevoir, mais là apparemment c'est un peu trop, les pauvres petits policiers.
J'ai vu un policier qui avait un méga qui a fait une intervention.
Ouais, en disant la manif ne partirait pas si petits jets de cailloux qu'il y avait eu et si les insultes continuaient. Pauvre petit policier blessé dans son amour propre, peut-être, on ne sait pas. Bon, du coup la manif a pu quand même partir. Alors du coup il y a eu différents échos, hein, des échos extrêmement anti-syndicaux qu'on ne partage pas ici, avec pour argumenter de dire que c'est la CGT qui a pris la chose en main et qui a voulu driver la manif pour elle-même en se mettant devant, alors qu'il y a eu un accord quand même entre les différentes organisatrices de la manifestation pour faire partir la manif, voilà, pour pas que ça reste sur la place bloquée, alors déjà qu'il faisait mauvais temps et tout ça, autant, vu que les organes de jeunesse voulaient manifester, bah autant y aller. Donc il y a eu un petit cordon de sécurité, d'autoprotection devant, et la manif a pu partir. Donc apparemment ça a été assez dynamique, ça a marché très vite parce que le parcours quand même qui était assez grand a été fait assez rapidement quand même, et donc ça s'est fini devant le double mix avec une nasse policière, on s'y attendait aussi un petit peu. Il n'y a pas eu grand chose de plus qui s'est passé. Il y avait donc le printemps des entrepreneurs avec monsieur Gattaz en guest star au double mix à Lyon, mais du coup elle a quadrillé par énormément de keufs, avec pas beaucoup de velléité non plus de faire quelque chose en arrivant là-bas. Faut dire que la marche était un peu fatiguée, la pluie avait bien mouillé, etc., etc. Donc il y avait peut-être moins de force pour aller encore un peu plus loin et aller faire la bise à Gattaz. Hein, non, pas la bise, mettre deux, trois claques. Mais du coup, ça a pas pu se faire, mais c'est pas grave, la mobilisation continue puisqu'il y a l'intersyndicale salarié cette fois-ci qui appelle à une mobilisation, et ce sera pour ce samedi 9 mars à 14h au départ de la place Jean Massé et en direction de la place Bellecour. Donc voilà, on espère, a priori le taf est fait au niveau syndicat, enfin on a des échos un peu de partout au niveau de la communication, des tracts distribués, etc. Il y en avait eu un peu plus de 80 000 de distribués au moins par un syndicat pour le 31 mars, et il y a à peu près la même chose qui va se faire pour le 9 mars. Donc voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue. On espère aussi que les personnes précaires, qui ne peuvent pas faire grève mais qui soutiennent le mouvement, ceux qui travaillent la semaine et qui ne peuvent pas venir, on espère que ce coup-ci, ça permettra à plus de monde de venir dans la rue, donc, parce que c'est un samedi, donc pour ceux qui ne bosseraient pas le samedi, ça peut être aussi un moyen de se faire entendre. On espère aussi que la mobilisation va prendre de l'ampleur et que les mobilisations vont se multiplier, avec, on l'espère aussi derrière, une suite, ça veut dire peut-être un secteur de salariés ou autres qui prendra un peu la chose en main, mais qui pourra peut-être porter quelque chose de reconductible, avec notamment des blocages économiques. On sait ce qui peut faire aussi tourner la chose, hein, parce que les manifestations, c'est hyper important de mettre du monde dans la rue, de montrer qu'on est là pour dire qu'on est contre cette loi travail, contre l'état d'urgence, etc. Mais qu'à un moment donné derrière, pour faire pencher un peu la balance et pour se faire un peu plus écouter, il y a aussi les blocages économiques. On sait aussi que dans pas mal de secteurs, il y a des grosses menaces pour les gens qui font grève. Ici, j'ai une toute petite brève. Ça se passe dans une entreprise de métallurgie nordiste, donc trois salariés qui ont fait grève jeudi contre la loi travail, ont reçu le lendemain une convocation à un entretien préalable à licenciement éventuel pour faute grave. Donc voilà ce qui est dans le courrier: nous envisageons de procéder à votre licenciement pour faute grave alors que notre entreprise se trouve en grand danger de survie. Nous sommes confrontés à une absence inopinée de votre part qui désorganise la production. C'est quand même formidable. Donc peut-on lire dans ces trois lettres envoyées par le PDG de Fonderie du Nord situé à Hasbrouck, dans le Nord, où une trentaine de salariés fabriquent des pièces en acier inoxydable depuis 63. Les grévistes avaient pourtant prévenu leur direction de la grève. On sait que dans d'autres cas, dans d'autres secteurs, c'est le cas aussi. Ça veut dire des petits mails qui sont envoyés en disant aux gens, vous prenez vos responsabilités en faisant grève, ce qui est assez inadmissible. On rappelle que la grève est un droit et qu'on peut pas vous l'enlever, qu'il y a des préavis de grève qui couvre pratiquement
jusqu'à
tous les secteurs.
Jusqu'à quand?
Ouais, jusqu'à quand? On sait que c'est sûrement un des objectifs derrière. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner, soit auprès des organisations syndicales ou autres, pour savoir effectivement si vous êtes bien couvert. Mais normalement, franchement, tous les secteurs sont quand même couverts par des préavis assez longs. Donc voilà, pour vous dire aussi que le 9 avril, donc manif de la plage Jean Massé à 14h jusqu'à la place Bellecour. Pour vous dire aussi qu'il y a le mouvement Nuit debout. Alors voilà, on ne sait pas encore trop nous quoi y penser de ce mouvement-là. On voit un petit peu comment ça se passe à Paris. Il y a quelque chose qui essaye d'être lancé sur Lyon. En tout cas, ça a été réprimé directement parce que du coup, hier après la manifestation, il y a été appelé Place Mazagran à 18h, une nuit debout sur Lyon, mais que du coup, le préfet a interdit ce rassemblement-là en fermant la place, enfin, en la quadrillant avec des keufs, quoi. Donc en fermant la place et en empêchant les gens de se rassembler, ce qui ne les a pas complètement empêchés de se rassembler parce qu'ils ont été sous un pont, je crois, sur les quais pour pouvoir discuter. Et donc, il y a un appel pour après la manifestation, donc à partir de 18h, sur la place Guichard, ce samedi 9 avril.
Paris aussi a eu pas mal de répressions. Je pense que ça a été une force vraiment policière énorme. Vraiment. J'ai lu ça, enfin on a eu un petit compte-rendu.
Voilà, oui, notamment par rapport au collectif Stop État d'urgence qui devait se rassembler, qui a préféré du coup suivre le mouvement, la mobilisation contre le travail, et qui a vu une répression de fou à ce moment-là avec une séparation des cortèges, une agression de la police et énormément d'arrestations.
Il y a eu une bonne réaction aussi des manifestants qui ont tenu le pavé, si on peut dire.
Oui, la ligne, en tout cas, oui.
Au quartier latin, ça rappelle quand même des souvenirs qui sont de vieux de 45 ans maintenant, et plus. Hein. Avec des barricades quand même, le boulevard Saint-Germain. Ah, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, la répression a été quand même violente. Hein.
Violente. Hyper violente. On sait aussi que nous, sur Lyon, en tout cas le 5 et le 31, il n'y a pas eu énormément par les gaz sur la place Bellecour, mais on sait que différents cortèges ont été très 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 encadrés par la police, comme on dit à l'allemande, ça veut dire avec des flics à droite, des flics à gauche sur les trottoirs, et très agressifs dans leur attitude. Voilà, on sait aussi que c'est une des stratégies du gouvernement, de l'État, pour essayer de faire déraper toute mobilisation, tout en sachant qu'ils sont suréquipés, que derrière, généralement, c'est difficile de gagner. Donc voilà, on sait aussi que c'est une de leurs tactiques. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre les cortèges qui vous permettront peut-être aussi de vous défendre, oui. Et puis vous participer à l'autodéfense des cortèges contre la police et l'État.
Et on donne ces informations-là parce que ce sont des informations qui ne passent pas dans les médias dits bah
évidemment,
bourgeois.
Forcément.
Et on peut toujours chercher, on les trouve pas, quoi. Enfin, je sais pas, sur Internet peut-être, à la limite. Mais il était bon quand même de rappeler ces événements quand même, au moins sur Paris là quand même.
Oui, carrément. Et donc par rapport à
des moments quand même.
Et par rapport à la suite de la mobilisation, il y a déjà deux autres dates qui sont posées par les organisations de jeunesse. Alors, je pense que tout le monde, enfin, ils sont pas tous et toutes d'accord entre eux et entre elles, notamment avec l'UNEF, mais ce qui est plutôt normal, avec une demande, enfin, deux dates de posées, donc de mobilisation, le 12 avril, donc ce serait mardi prochain, et le 14 avril, jeudi prochain. Voilà, pour continuer le mouvement. La presse a tendance à descendre ces mouvements-là en disant que le mouvement est en baisse et blablabli et blablabla, mais après
les casseurs,
pas forcément les casseurs, mais même au niveau du nombre de manifestants et de manifestantes, faut savoir qu'aussi, ça se construit sur la durée, un mouvement, que les salariés peuvent aussi ne pas toujours suivre sur ces dates successives, c'est compliqué, tant qu'il n'y a pas un appel très clair sur des grèves reconductibles, et pourquoi pas dans le futur une grève générale. C'est très délicat pour les salariés de faire grève tous les deux jours, quoi. Il y a du salaire qui part et c'est pas évident. Mais en tout cas, la jeunesse est toujours là et maintient le mouvement, et ça c'est plutôt bien parce que c'est plutôt eux et elles qui le portent. Et ensuite, les salariés, posent des dates peut-être un peu plus éloignées, mais au moins aussi rejoignent ce mouvement-là. Donc les deux prochaines dates, c'est le 12 et le 14 avril. Mardi et jeudi, on vous laisse du coup jeter un coup d'œil sur les différents sites ou blogs ou pages Facebook, Lyon 2 en lutte, notre page où on relaie toutes les infos. On a aussi une page d'information publique, vous pouvez vous inscrire vous-même, vous tapez CGA liste publique, vous tombez sur une page ActiveX, vous entrez votre mail, vous inscrivez, vous recevez un mail, vous validez et vous recevez toutes nos informations. Et on relaie tout ce qui peut se passer à droite et à gauche, notamment contre cette loi travail. Et se rajoute un truc qui peut être assez plaisant aussi, ce serait le 13, donc entre les deux mobilisations de jeunesse, le 13 avril, eh ben, il y a plein de monde du gouvernement qui sera à Vaux-en-Velin. Je vous lis le petit truc, mené par le Premier ministre Manuel Valls, le 3e comité interministériel égalité et citoyenneté, ne vomissez pas, se déroulera dans la ville de la métropole de Lyon avec une douzaine de ministres. Cette ville de la métropole, c'est Vaux-en-Velin. Parmi eux, les régionaux de l'étape, hein, Hélène Geoffroy, bien sûr, la secrétaire d'État à la ville. Aussi Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, Emmanuel Macron, que vous pourrez mettre quelques claques si vous le souhaitez, par rapport à ces différentes lois sur l'économie, Emmanuel Cosse, logement, on pourra lui rappeler aussi que la traite hivernale est finie et qu'il y a plein de monde qui va être viré et se retrouver dehors, Audrey Azoulay de la culture, ses intermittentes et intermittents de la culture veulent venir aussi, ça peut le faire, et Myriam El Khomri, ministre du Travail, avec sa fameuse loi qui veut donc détruire ce code du travail. Donc voilà, bah, il y aura sûrement quelque chose qui se préparera. Il y aura sûrement énormément de policiers aussi. Mais voilà, petite info, le 13 avril à Vaux, bah, ça peut être la fête aussi. Tout à l'heure, on parlait de répression. J'ai trouvé un petit texte là sur le site IATA là, de Toulouse. Sur les voltigeurs, voilà, les voltigeurs, on va vous rappeler ce que c'est un petit peu, et puis a priori, un petit retour informel, on va dire. Alors, ça s'appelle pas les voltigeurs, hein, mais je vais vous lire tout ça. Donc 30 ans après la mort de Malik Houssekine, le retour des voltigeurs à Toulouse. En décembre 86, Malik Houssekine est matraqué à mort par des flics d'une brigade à moto, le peloton des voltigeurs motoportés. Quelques jours plus tard, cette brigade est dissoute. Jeudi 31 mars 2016, 30 ans après, les voltigeurs font leur réapparition à Toulouse, traquent et matraquent en toute illégalité. On va rappeler un peu ce qui s'était passé dans l'article, enfin il le dit, ce qui s'était passé en 86. Donc ce 6 décembre 86 à Paris, après une manifestation étudiante contre le projet de réforme universitaire de Vaquet, Malik Houssekine est tabassé à mort par deux policiers de la BAC à moto. Un témoin décrit la scène, deux policiers s'engouffrent dans le hall, ils se sont précipités sur le type réfugié au fond, ils l'ont frappé avec une violence incroyable, il est tombé, ils ont continué à frapper à coups de matraque et de pied dans le ventre et dans le dos. Malik meurt suite au coup, le lendemain de Vaquet démissionne, étudiants et lycéens défilent en silence dans toutes les villes portant des pancartes « Ils ont tué Malik ». Lundi 8 décembre, Chirac, Premier ministre, annonce le retrait du texte de la loi de Vaquet. Jean Smith et Christophe Garcia, les deux auteurs du matraquage mortel, ont comparu 3 ans plus tard devant la cour d'assises de Paris pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils sont condamnés le 28 janvier 90, respectivement à 5 ans et 2 ans de prison avec sursis. Ça rappelle des choses, hein, surtout ces morts dues à la police depuis maintenant plus de 30 ans. Leur administration n'a pris aucune sanction notable. L'un a vu sa retraite avancer, l'autre a changé de poste. Donc le PVM, ce peloton de voltigeurs motoportés, ce sont des policiers montés à deux sur une moto tout terrain. L'un conduit, l'autre est armé d'une matraque. Ils ont comme mission de, entre guillemets, nettoyer les rues après les manifestations en pourchassant, entre guillemets, les casseurs. Ce PVM, donc, est mis en service lorsque Charles Pasqua devient ministre de l'Intérieur en 86. Pasqua souhaite, entre autres, rétablir la peine de mort et protéger les fonctionnaires de sécurité. Ce corps de police fut dissous à la suite de cette affaire, et pourtant 30 ans après, comme le cite cet article de Toulouse, traque et matraque en toute illégalité. Jeudi 31 mars, donc lors de la dernière journée de mobilisation, Toulouse, les manifestants contre la loi travail et les passants se font gazer abondamment sur la place Saint-Cyprien et autour. Les grenades pleuvent. Je suis les tambours de la Batucada, on se retrouve à 40 bloqués entre deux murs de CRS devant une école. Après négociation, ils nous relâchent par petits groupes de 10, sans contrôle et sans brancher. On a à peine fait 50 mètres qu'on est de nouveau chargé par les flics. Les motos de la BAC nous traquent et nous matraquent sur tout le chemin des allées Charles de Fitte à la rue Lagan, le long de la prairie des Filtres. Si vous connaissez Toulouse, vous reconnaîtrez. Brassard sur le bras, le moteur de devant conduit, celui de derrière à la gazeuse dans une main, le doigt sur la détente et la matraque dans l'autre. Ils nous pourchassent pendant une demi-heure en donnant des coups d'accélérateur et en frappant les gens sur la tête, le dos, avec leur matraque. Ils s'acharnent sur des gens seuls, malgré les cris, et parviennent à casser des instruments de la Batucada en donnant de gros coups de matraque. Nous avons dû nous réfugier dans une cage d'escalier, essoufflés, traumatisés, séparés, et pour certains, en sang. Donc voilà pour cette petite brève de Toulouse. C'est vrai que sur Lyon aussi, des baqueux à moto, il y en a. Ils n'ont pas encore senti la matraque, mais peut-être c'est un retour aussi aux anciennes méthodes pour mater les rébellions.
Ils s'en tiennent qu'à surveiller,
pour le moment, voilà.
Enfin voilà, quoi.
Mais à Toulouse, a priori, ça s'est passé.
Il y avait longtemps, à un moment qu'on les avait pas revus.
Ouais.
Depuis, ils devaient se cacher, quoi.
2010, un petit peu, mais là, voilà. Ils reviennent.
Ouais.
Je voulais aussi un petit papier, un peu sur le mouvement Nuit Debout, puis globalement sur le mouvement face à la loi travail. Donc, alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ce site-là, mais je vais quand même vous le lire. Donc, c'est trouvé sur le site de la Horde. Donc le titre de l'article, c'est « Extrême droite et confusionniste face au mouvement contre la loi travail », parce qu'évidemment, on n'a pas que des alliés qui combattent cette loi. Il va falloir faire attention, notamment dans les rangs des assemblées citoyennes, comme on dit, et notamment la Nuit debout. Comme l'extrême droite réagit-elle au mouvement social qui agite la France autour de la loi El Khomri et dont on espère qu'il est parti pour durer? Pour le FN, bah c'est classique, hein, c'est la faute à l'Europe et aux immigrés, pas aux patrons. Et à part dénoncer les vilains casseurs, rien de neuf sous le soleil. Du côté de l'extrême droite radicale, on s'excite et on tente d'attaquer, entre guillemets, les gauchistes qui semblent reprendre du poil de la bête. Cependant, si le milieu nationaliste classique, entre guillemets, peine heureusement à trouver sa place face à la colère sociale, chez les confusionnistes, on se frotte les mains et on essaye de s'incruster dans le mouvement, mais pour finir par révéler sa véritable nature. On a déjà parlé un petit peu de ce mouvement conspirationniste, confusionniste, etc. Donc voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail dans l'article. Donc on va parler un peu du FN d'abord. Le FN regarde le projet de loi El Khomri par le petit bout de sa lorgnette raciste, et le recul social sans précédent qu'il engendre est évoqué du bout des lèvres. Marine Le Pen préfère donc s'en prendre à ceux qui s'opposent à lui, leur reprochant de dénoncer un outil de casse sociale aux mains des patrons, au lieu de s'en prendre seulement à l'Union européenne. Dans un communiqué du 9 mars, elle interpelle ainsi dans un grand élan interclassiste, salariés comme chefs d'entreprise, sur l'urgence absolue de défaire le carcan destructeur de l'Union européenne, bravo, et appelant entre guillemets à un sursaut, vous le devinerez, patriotique. Nicolas Bay, dans un texte publié sur le site du FN le 11 mars dernier, reproche lui surtout à la loi d'être entre guillemets communautariste. C'est surtout la question des revendications politico-religieuses, toujours entre guillemets, auxquelles feraient face les chefs d'entreprise qui le préoccupent, bien évidemment. S'il évoque rapidement le problème des astreintes ou des indemnités prud'homales, c'est pour mieux se replacer du côté des patrons, pour pleurnicher sur le sort des patrons des TPE-PME qui croulent sous les charges dues, évidemment, à, vous l'aurez deviné, l'immigration massive. Voilà pour l'analyse. Côté mobilisation, comme à chaque mouvement social un peu massif, les frontistes aussi entrent à s'afficher, entre guillemets, proche du peuple et défendre une société d'ordre contre la chienlit jeune ou syndicale. Ainsi, le FN 44 dénonce violemment les dégradations commises contre les banques à la suite de la manif du 31 mars à Nantes par, entre guillemets, une minorité de manifestants radicaux antifascistes et autres militants d'extrême gauche. Et croit bon de rappeler que, entre guillemets, la solution au défi que pose la loi travail à notre propre conception du travail ne viendra pas de la rue mais des urnes, forcément, merci le FN. C'est que le FN sait qu'il n'est plus un parti de militants depuis longtemps et qu'il serait bien en peine de, entre guillemets, tenir la rue dans un mouvement où la plupart des manifestants lui seraient clairement hostiles. Un peu pathétique, Gaëtan Dussausset, l'actuel patron du FNJ, était par ailleurs très déçu de ne pas avoir été reçu, enfin je rigole parce que c'est, ouais, avec les autres organisations de jeunesse par Manuel Valls, il manquerait plus que ça. Au moment de l'appel à la manif du 9 mars, le Front National de la Jeunesse avait prévenu qu'il ne manifesterait pas, mais avait lancé, entre guillemets, une vaste campagne de terrain contre cette loi, qui est passé pour le moins inaperçu. En tout cas, moi, j'ai rien vu non plus. Ainsi, les militants du FN de Bourges et du FNJ du Cher ont pu tranquillement poser leur barnum dans les rues de la ville le 19 mars, distribuer des tracts et faire signer une pétition maison. On a ainsi pu voir à l'œuvre la militante FNJ Julie Apritchiena, connue des habitués de la Horde, puisqu'on avait déjà évoqué sur le site ses amitiés, vous l'aurez deviné, néo-nazis. Alors, quant à l'extrême droite radicale, on avait vu un petit peu à Lyon, bon, on va en parler là, voilà, les groupes nationalistes violents ont toujours été du côté de la matraque. Nous avions en octobre dernier fait un rappel historique sur ces, entre guillemets, rebelles, toujours promptes à se mettre au service du système qu'ils prétendent combattre. Dans le cas présent, les fachos ont été plutôt discrets, sauf lorsque les cortèges passaient un peu trop près de leur fief, entre guillemets, hein. Ainsi, à Lyon, le 31 mars, devant le site de la manufacture des tabacs à l'université Lyon 3, des membres du GUD ont tenté d'attaquer le cortège, mais ils ont rencontré une résistance de jeunesse et antifasciste. À Paris aussi, les occupants de la place de la République lors de l'initiative Nuit debout ont aussi été attaqués dans la nuit de samedi à dimanche par des gros bourrins d'extrême droite, mais là l'histoire est un peu plus compliquée, car c'est du côté des confusionnistes du mouvement du 14 juillet qu'en réalité l'agression est venue. Et donc chez les confus, on se frotte les mains. Depuis quelques années, les militantes et militants du mouvement social sont régulièrement confrontés à une nouvelle espèce de morbac, comme ils disent eux, hein, les confusionnistes, pour qui la frontière droite-gauche est une chimère et qui appellent à un front commun anti-système, y compris avec l'extrême droite. Avec leur discours plein de naïveté abyssale et de contradictions, ils se baladent dans les manifs, les âgés, tentant dès qu'ils le peuvent de monopoliser la parole en quête d'une pseudo-légitimité auprès de l'ensemble du mouvement, dans le but de rameuter par leur crèmerie et son étalage d'idées réactionnaires. Discrets, passe-partout, les confusionnistes n'en sont pas moins dangereux, car avant s'en masquer, ils sont passés maîtres dans l'art de tromper les gens. Dans le mouvement contre la loi travail, on avait déjà évoqué une tentative d'infiltration de cette tendance sur Annecy le 9 mars dernier. À Paris, c'est le mouvement du 14 juillet dont nous avons déjà parlé sur le site, nous aussi il me semble à un moment donné, qui s'est invité à l'initiative Nuit Debout qui faisait suite à la manif du 31 mars. Vu l'angle de mobilisation choisi, il semblait évident que les conspirationnistes et confusionnistes de tout poil allaient rappliquer comme à l'époque du mouvement des indignés. Mais les temps changent, ils commencent de plus en plus à se faire griller par des gens avertis. Il faut dire que le conspi ou le confusionniste adore la lumière des caméras et ne peut s'empêcher de mettre sur YouTube le moindre de ses petits exploits. La semaine dernière, la vigilance parmi les organisateurs était au rendez-vous et rapidement, un certain nombre d'entre eux ont pu être repérés et écartés. Quelques-uns ont pu passer à travers les gouttes, mais ils savent désormais qu'ils sont pistés. Samedi soir, l'un d'eux, Sylvain Baron, membre du mouvement du 14 juillet, a d'ailleurs révélé ses véritables liens avec l'extrême droite radicale. Repéré dans la soirée Place de la République, lui et ses amis sont invités à quitter les lieux. Quelques dizaines de minutes plus tard, un de ses amis réapparaît entouré de plusieurs dizaines de skins d'extrême droite armés de barres de fer et il interpelle alors les gens qu'il avait identifiés et expulsés de l'Assemblée. Alors maintenant, vous allez encore me foutre dehors. Les skins tentent d'attaquer l'équipe chargée d'assurer la sécu de l'Assemblée. Rapidement repoussée par les personnes présentes, la fine équipe termine dans un bar sous la protection de la police. C'est d'ailleurs un éternel étonnement de voir ces individus qui dénoncent à la longueur de vidéos et de textes un État corrompu et manipulé réclamer rapidement l'aide de cet État lorsque cela commence à chauffer pour eux. Le lendemain, c'est cette fois Bohort Mignolet, lui aussi du mouvement du 14 juillet, qui s'est fait virer de la place de la République. Le personnage, faux Anonymous, qui raconte sa vie sur Facebook et relaie des thèses conspi, a surtout fait parler de lui à propos de l'occupation de l'église Sainte-Rita, une cause qu'il est venu défendre sur Radio Courtoisie en novembre dernier. Dans un texte assez pathétique, Baron se plaint, entre guillemets, des nazillons antifa venus, selon lui, troller le mouvement. Une jolie inversion des rôles, une pratique courante de cette mouvance, car qu'on se le dise, les confus sont au mouvement social, ce que sont les trolls internet, une nuisance aujourd'hui difficile à éviter et à combattre pour cette raison sans relâche. Donc voilà. Ah mais c'est déjà super tard en fait. J'avais pas vu. Ça passe vite. Je voudrais juste faire, peut-être que tu veux faire après les luttes étrangères. Il y en aura pour.
Si t'as quelque chose où on passe une petite musique très courte.
Du coup je voulais juste parler si
continue,
je retrouve alors, ma feuille.
Continue.
Oui, je vais essayer parce que du coup je voulais vous parler un peu de Pologne. Voilà, de la Pologne
oui,
vite fait.
Oui,
et puis après on fera un peu des luttes étrangères si tu veux. Ça finira l'émission comme ça. Du coup, voilà, déjà très restrictif parce que du coup il va y avoir sûrement un appel à rassemblement. Ça va être sûrement ce lundi. Alors ce sera peut-être Place Zétéro, etc. En soutien du coup aux Polonaises en lutte, parce que vous le savez là-bas, déjà très restrictive, la Pologne donc pourrait totalement interdire l'avortement. C'est en tout cas ce que souhaitent des organisations, donc pas pro-vie mais anti-choix, qui ont déposé un projet de loi au Parlement, soutenu par l'Église catholique, vous l'aurez compris. Donc ce dimanche, donc c'était dimanche dernier, des manifestations contre ces mesures restrictives ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Devant le Parlement polonais, plusieurs milliers de femmes ont brandi des cintres métalliques. Autrefois, ils servaient à des avortements désespérés. Aujourd'hui, c'est le symbole de la révolution contre ceux qui veulent interdire totalement l'IVG. La Pologne avait son minimum. Dans 3 cas, l'avortement était légal. Aujourd'hui, le gouvernement veut interdire totalement l'avortement, même en cas de viol. Retirer ce droit aux femmes, c'est de la barbarie, dénonce Isabella, 23 ans. À l'origine du projet de loi, les organisations anti-choix ne souhaitent tolérer l'avortement que si la vie de la mère est en danger. Les grossesses résultant d'un viol, d'un inceste ou bien celle dont l'embryon présente une maladie incurable devrait arriver à terme. L'Église catholique soutient le projet. Aujourd'hui, une lettre de l'épiscopat a été lue dans toutes les paroisses du pays, en Pologne donc. Nous demandons aux députés et au gouvernement de prendre l'initiative pour créer des lois et des programmes d'aide concrète aux parents d'enfants malades, handicapés ou issus d'un viol, y est-il écrit. Si la loi aboutit, la peine maximale pour ceux qui pratiquent illégalement l'avortement passerait de 2 à 5 ans. Le Parlement ou le Parti conservateur catholique Droit et Justice à la majorité absolue devrait prochainement se pencher sur la question. Donc voilà, suivez bien les infos, il y aura sûrement un rassemblement en début de semaine, voilà, en soutien aux Polonaises en lutte là-bas, et on espère qu'il y aura du monde pour les soutenir. Je te laisse enchaîner.
Et bien justement, demain, 7 avril, hein, je rappelle, Palais du Travail, 9 place Docteur Lazare Goujon, c'est à Villeurbanne. Eh bien, il y aura précisément un débat, une projection sur ces pro-choix-là.
sur ces anti-choix. Donc, qu'est-ce que... Oui, anti-choix, pardon.
Ouais. On peut se mélanger un peu les pinceaux. Ouais.
Pas de gourance. Voilà, donc si vous voulez en savoir davantage, c'est le moment d'aller se renseigner, de s'informer au Palais du Travail demain à 19h30.
Alors, et puis il y aura sûrement une diff qui aura lieu samedi pendant la manif aussi. Mais vous tenez-vous au courant de tout ça.
D'accord. Alors, en ce qui concerne des luttes, il y en a encore, partout la planète, donc des luttes pas si étrangères, comme je l'appelle souvent. On va passer au Canada avec une fabrique de whisky qui était en grève. C'est à Gimli ou à Gimli, c'est dans le Manitoba, que donc dans cette société que 53 salariés se sont mis en grève au 3 avril. Ils et elles entamaient donc leur cinquième semaine. Alors en cause, les salaires, les pensions, l'assurance invalidité à long terme, les vacances qui devaient donc avoir du poids dans ces négociations. Les propositions de la direction ont été rejetées par 81% des salariés. Selon le syndicat TUAC du secteur, la suite est dans les mains d'un arbitre dit indépendant. En Côte d'Ivoire maintenant, j'en avais pas mal sur la Côte d'Ivoire, mais on le refera la semaine prochaine. La Côte d'Ivoire, donc c'est à Adzop, c'est au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de Lamé, avec une société, Saint-Tram CI, entreprise internationale de travaux publics. Allez savoir à qui ça appartient, ça serait pas à Bolloré par hasard. Donc avec une grève, mais là en vue, puisqu'elle dénonce, il dénonçait la discrimination salariale, le manque de repos, les pauses déjeuner, les licenciements abusifs, et les salaires inégaux qui sont dénoncés avec des chiffres à l'appui, là où les expatriés entre guillemets gagnent entre 390 000 et 600 000 francs CFA, je vous laisse faire la conversion, les nationaux eux perçoivent entre 60 000 et 140 000 francs CFA. C'est pas des euros CFA, c'est bien des francs CFA encore. Donc CQFD, il va falloir revenir à des proportions plus égalitaires en un, et en deux, la définition des heures de travail également. Et en trois, l'organisation des élections des délégués du personnel. Et en quatre, la réintégration des camarades licenciés. Vous voyez que c'est kiff-kiff ici. Côte d'Ivoire toujours, donc je vous l'ai dit, il y en aura donc la semaine prochaine, avec une manif lycéenne qui a été réprimée et violemment réprimée par la police. C'est à San Pedro. Les lycéens et lycéennes étaient dans la rue pour dénoncer certains abus dans leurs établissements. Certains abus, il est demandé aux élèves de fournir matériel et autres besoins aux études, contrairement aux conditions d'inscription du début d'année. La marche a été dispersée avec violence partout dans les rues de la ville, plusieurs blessés, élèves, et des blessés même graves, des dizaines d'arrestations d'élèves du lycée municipal et du lycée Inagoi. Les violences policières ont été dénoncées. Les cours ne reprenaient pas à cette date, c'était début février 2016. Les rencontres donc entre les délégations lycéennes et la direction se sont multipliées. Voilà pour ce qui est des luttes de ce soir. C'est un petit rajout à faire.
Non, mais du coup, on va juste rappeler les prochaines dates. Donc, on vous invite à venir dans la rue ce samedi 9 avril à partir de 14h. La manifestation contre la loi travail, avec aussi d'autres revendications, notamment sur la fin de l'état d'urgence, commencera à 14h, place Jean Massé, et se dirigera vers la place Bellecour. On sait aussi qu'il y a une deuxième tentative donc d'installer un peu le mouvement Nuit Debout sur Lyon, vu qu'il a été interdit hier, et ça se passera donc ce même samedi 9 avril à partir de 18h sur la place Guichard normalement. D'autres mobilisations aussi des organisations de jeunesse, ce sera pour le mardi 12 et le jeudi 14, donc suivez ça tout ça un petit peu sur les réseaux pour retenir au courant des lieux de rassemblement, de manif ou d'action.
Tout à fait, il faut du monde.
Voilà, également le 13 avril, le mercredi, entre les deux dates de mobilisation, un paquet, une belle brochette de ministres qui sera à Vaux-en-Velin, ça peut aussi donner des idées. Et on vous invite aussi à nous retrouver via notre page Facebook, qui est assez active, notamment sur tout ce qui se passe en termes de lutte sociale.
Et puis dites-nous ce que vous pensez de l'émission.
Voilà. Et puis on vous invite, pas forcément ce samedi à la permanence, parce que du coup on sera dans la rue. Mais entre-temps, les permanences de la librairie, c'est de 15h à 19h le samedi et de 17h à 19h le mercredi. N'hésitez pas à venir aussi discuter un peu avec nous sur tout ce qui se passe en ce moment et sur autre chose. Donc vous êtes gracieusement invités.
Ah, tout à fait.
Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, mercredi 20h pour Idées Noires.
Voilà. Et puis, bah, mercredi, hein, c'est tout
à mercredi.
Ce que je veux dire.
Et à samedi dans la rue.
Salut.
Bonne soirée.
Bonne soirée.